Amis Burgiens, bonjour à vous.
Et voici pour eux, pour nous.
Pour vous, Electric Boogaloo, votre chronique à cœur et à plume sur la fine fleur graphique de la bande dessinée.
Anne Tissier.
Et Maxime Mott, vous êtes bien sûr Radio B.
Pour vous servir.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Bien le bonjour, amis burgiens, et bienvenue sur nos ondes pour quelques bulles d'accalmie en ces temps éminemment troublés.
Et oui, hélas, de couvre-feu fébrile en reconfinement inéluctable pour certains.
Sans oublier le singulier déluge d'incidents improbables, confus et anxiogènes de ces dernières semaines aux quatre coins du monde. Michael Bay n'aurait pas fait mieux.
Oui, et pas l'ombre d'un Transformers pour nous tirer d'affaire, ni de cartes sortez de prison à l'horizon. La réalité nous est décidément bien cruelle.
Où diable est donc Optimus Prime quand on a besoin de lui, hein ?
Oui, bref, notre odyssée pandémique s'éternise encore pour ce laborieux début d'année 2021. Aussi, installez-vous bien confortablement chez vous au travail, armez-vous de votre meilleur thé et de tout le chocolat à disposition, car il s'agit bien d'ambitieuses odyssées narratives et d'autres récits de voyage du 9e art que nous allons vous recommander aujourd'hui.
Case par case, trait par trait, de la poussière des chemins péruviens jusqu'aux confins galactiques, là où bien souvent, le voyage importe plus que la destination.
Et quel bel ouvrage que celui-ci, sans nul doute le meilleur album de bande dessinée produit ces quelques dernières années.
Parole de libraire, juré craché, récipiendaire du prix 2019 des libraires de bande dessinée, il s'agit bien sûr de...
Grand fan, je présume.
Et plutôt deux fois qu'une, mais non sans raison. Les Indes Fourbes, donc, notre flamboyant paragon des romans graphiques aquarellés, si brillamment portés par le scénario de Alain Hérol et de Et les aquarelles majestueuses de Juanro Guarnido. Un superbe et imposant album de 160 pages, édité chez Delcourt, depuis août 2019. Presque deux ans déjà.
Deux grands, très grands noms de la BD de genre, aux manœuvres ici. Alain Hérol est l'artisan chevronné derrière la série de Cap et de Croc, son travail exprimant l'art subtil et aiguisé d'un dialoguiste hors pair et une érudition fort rare des textes et légendes folkloriques européennes.
Tout aussi recommandable, figure incontournable de la BD franco-hispanique, Juanro Guarnido est la figure élusive qui nous dessine la série Black Sad, dont nous avons déjà longuement évoqué dans cette émission. Un trait ultra expressif, des fonds très riches, criblés de détails et un mouvement saisissant. Une patte assurément identifiable entre mille. Et pour cause, Guarnido contribue en tant qu'animateur au studio Walt Disney depuis 1993. Et il est fort à parier que, sans le savoir, vous avez déjà posé les yeux sur son travail.
Le dramatis personae étant désormais expédié, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Et pour ça, une petite parenthèse historique s'impose. Au XVIe siècle, dans la péninsule ibérique, émerge un nouvel et singulier mouvement littéraire dit picaresque. Un pied de nez naturaliste avant l'heure tenant pour sujet les mésaventures burlesques de fripouilles peu recommandables, de félons fébriles de mecs louches et lâches et autres chevaliers d'industrie. On vous la fait courte, vous êtes ici chez les salopards, mais pas n'importe lesquels.
Le protagoniste du roman picaresque, le fameux Picaro, n'est pas tout à fait manant comme les autres. Il aspire à grand renfort d'ingénuité infructueuse et s'extirper de sa piètre condition populaire. Alors oui, le Picaro rapine, falsifie, vole et vandalise, sempiternel conspirateur improvisé de par ses origines et sa destination.
Hélas pour lui, le roman picaresque grandit à l'aulne de son époque férocement manichéenne, qui sous couvert de moralité s'escrime à piétiner les vocations du plébéen surpris à ses illusions, car le Picaro reste tragiquement condamné à échouer. Encore et toujours. Figure remarquablement populaire parmi les auteurs de genre conceptiste, un certain Don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et seigneur de Juan Abad, contribua par ses œuvres prolixes et brutalement satiriques à populariser le roman picaresque dès le début du XVIIe siècle.
Et parmi la pléthore de ces personnages, un certain Don Pablos de Sergovie, vagabond exemplaire et miroir des filous. Figaro idéal de piètre naissance, mais soucieux d'honorer la promesse faite sur le lit de mort de son père. Foi de Don Pablos, il ne travaillera jamais. Son périple, cruellement infructueux, ne lui épargnera ni les humiliations, ni la folie des hommes. La guerre lasse, à la toute fin du roman, il se prépare à rejoindre les Amériques pour y tenter sa chance, là où personne ne le reconnaîtra.
Une bien longue digression historique, nous diriez-vous, certes. Mais non sans pertinence, car figurez-vous que cet album, Les Indes Fourbes, a pour sujet ni plus ni moins que la suite des aventures de Don Pablos, attendue depuis 4 siècles.
Et ça, Miburgien, c'est la classe.
Oh,
quel
oui.
Panache.
Oui, quel panache.
De quoi relativiser les délais d'attente entre 2 saisons sur Netflix.
Oui.
Notre si précieux album s'ouvre donc, au-delà de sa superbe réplique d'histoire historique d'une carte des Amériques, sur notre fief et gredin de service, aux prises avec ses compagnons d'infortune au milieu de l'océan Atlantique. Mais de fond de cale, menu tricherie aux cartes dévoilées, Don Pablos finira par-dessus bord assez vite, courtoisie de ses passagers quelque peu sous-polaires.
Oh, il survivra, s'escrimant sans relâche et non sans panache à la permanente improvisation de sa survie au quotidien. Et ce nouveau monde, il en verra la couleur, des étendues sauvages aux inéluctables sévices du vieux monde, de sa soif d'or et d'argent, comme du sang des indigènes. Mais vous nous connaissez, un seul mot d'ordre,
ne divulgâchons rien.
Qui plus est pour un album aussi grandiose, si touchant d'humanité.
Et grandiose est bien le juste terme pour le décrire. Côté graphisme, le maestro Guarnido à l'œuvre est ici au sommet de son art. Des pics de la cordillère aux méandres luxuriants de l'Amazonie, sans oublier le charme saisissant de ses visages presque caricaturés mais toujours si brillamment expressifs.
Et pour les plus curieux d'entre vous, sachez que le récit complet des premières aventures de Don Pablos sur le vieux continent est bien sûr dans le domaine public, aisément accessible sur Internet.
Et c'est sur ces quelques mots que nous devons passer à la suite, Sammy Burgien. Et qui de mieux que le jazz band Seatbelt pour nous rappeler, comme l'a fait Don Pablos, que plutôt qu'à t'attendre face à la porte close du destin, mieux vaut frapper un petit peu plus fort.
They can never get in. Kept my cool on the lock and key, and I never shed a tear. Now the sign of my condition, the fear of love, a bit of vanity, it kept me on the run, the main defense of my confession. I kept a chain upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission. The burning ghost without a name was still calling all the same, but I just wouldn't listen. The longer I stole, the more that I saw, the further I fall, the further I fall.
could I go the distance? I face the door and all my shame, tearing off each piece of chain until they were broken. But no matter how I tried, the other side was locked so tight, the door wouldn't open.
Grand-père avait raison, ne jamais sortir sans mon exosquelette.
Exit Caravelle et autres boussoles. Bonjour astro-navigation et croiseurs interstellaires. Vous l'avez compris, notre deuxième album a pour sujet le space opéra, bref, l'odyssée dans l'espace. La geste des princes démons publiée chez Glénat cette année s'ouvre sur une épopée cruelle et homérique.
Sur une planète peuplée d'habitants pacifiques, un vieil homme apprenait à pêcher à son petit-fils de 9 ans. Soudain surgirent des vaisseaux spatiaux immenses en forme d'oiseaux de proie dans un ciel d'orage, détruisant tout sur leur passage. Les survivants furent brutalisés et réduits en esclavage. Le vieil homme et son petit-fils leur échappèrent de justesse.
En assistant à la destruction de leur monde, ensemble, ils font le serment de se venger et de retrouver les responsables assassins, 5 princes démons. Pour cela, le jeune garçon, Kirf Gersen, va forger durant des années son esprit et son corps pour accomplir sa quête devenue son destin.
À la mort de son grand-père, aimé, il est enfin prêt à se lancer dans la poursuite de sa vengeance. Mais nos révélations s'arrêteront là pour vous laisser le plaisir de lire la suite de cet album assurément digne de toute votre attention.
Oh oui, le genre space opéra mêlé aux poussières du western classique. Loin de Star Wars qui a pris toute la place ces dernières décennies, voici l'adaptation d'un cycle de 5 romans injustement oubliés. La geste des princes démons de l'américain Jack Vance, écrit entre 1964 et 1981. Ce premier volume entame une série qui en comprendra, nous l'espérons, au moins 10. 2 pour chaque roman du cycle. C'est une adaptation réussie du scénariste J.D. Morvan, grand fan de SF, servi par les majestueux dessins de Paolo Traischi, publié en cette année 1 de la Covid chez Glénat.
Côté scénario, sans surprise pour beaucoup, le monomythe est de rigueur ici. Là où la structure du récit se veut conventionnelle, tout le talent conjugué de l'auteur et du dessinateur insuffle à l'ensemble une identité propre et marquée, dépaysement garanti. Miam miam, si je puis dire.
Oh oui.
Une couverture somptueuse, pleine de bruit et de fureur, sombre et tragique, avec de belles armures chargées d'élégance épique.
Oh, je veux la même que le héros.
Cet album est un brillant exemple de ce que Space Opera peut encore apporter. Et quitte à devoir attendre l'hypothétique et élusif remake de Dune au cinéma, autant apprécier le travail de Monsieur David Lynch sur ses bandes originales d'époque du premier film sorti en 84. il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et non, désolé, certaines blagues sont plus onéreuses que les autres. Et pour Disney, hélas, on n'a pas le budget.
Mais quitte à poursuivre nos pérégrinations galactiques sur le Space Opera, autant faire escale sur les mondes de Didier Tarquin. Notre troisième et dernier album pour cette émission s'intitule UCC Dolores, trois tomes déjà parus aux éditions Glénat, une première pour le briscard de la BD Didier Tarquin et son épouse, coloriste talentueuse, traditionnellement publiée chez Soleil.
Eléctrie de Tarquin, vous le connaissez. On lui doit avec Alaston l'univers déjanté de l'Enfeuse de Troie, ses héros ravageurs, ses trolls ravagés, ses gnomes, ses références et ses calembours. Un univers prolixe depuis bientôt 30 ans, mine de rien.
De mémoire, un premier album en 1994 pour L'Enfeust, un sacré monument générationnel de la fantaisie franco-belge.
Mais trêve de nostalgie et place aux nouveaux venus. L'album s'ouvre sur les derniers pas de Moni, une nonne orpheline recueillie dès sa naissance au sein du monastère de l'église des Nouveaux Pionniers. En effet, ses 18 ans promptement célébrés, notre belle ingénue aux cheveux de feu se voit assez fermement poussée vers la sortie par la mère supérieure, vers un monde technologiquement avancé dont elle ignore absolument tout. Pour seul bagage à son imminent périple, les quelques objets déposés avec elle sur le seuil du temple. Un vieux drapeau corsaire aux couleurs d'une ancienne confédération rebelle, une clé d'accès à une consigne du spatioport local et un simple message. Prends soin de Dolores.
Happy birthday, Moni. Happy birthday, birthday to you. Et surprise, le Dolores en question est un antique et légendaire vaisseau militaire lourdement armé, modem Cosmo Corsair ayant jadis appartenu au tristement célèbre colonel Mac Monroe, sorte de crime de guerre ambulant ayant disparu des radars bien des années par le passé. Un héritage notoire qui suscite bien des convoitises dans une galaxie hostile au concept de bienséance.
Et pour Moni, son choix est fait. Une fois un pilote embauché, direction la piste des Nouveaux Pionniers pour y exercer sa vocation, de l'humanitaire. La dite piste, ni plus ni moins que les limites de l'espace connu, au-delà des cartes et de tout semblant d'ordre rationnel. Imaginez-vous Mère Teresa avec le Faucon Millenium et un lance-roquette. Vous y êtes. Les ennuis aussi. Mais quel pilote serait assez fou pour cautionner une odyssée pareille?
Eh bien, voici Cash, avec un corps. Bâti comme une brique, fin comme un parpaing et grognon comme un mur de béton. Ses hobbies, distribuer des claques à la gladiature robotique locale façon Dôme du Tonnerre. Et vraiment, claque, mandat les torgnoles, hein, pas besoin de sabre laser quand le pur mal te suffit. Visiblement troublé par l'apparence de la jeune femme, ce gros bras à casquette lui offrira ses services, ses 24 carats de cynisme et son expérience de briscard galactique en perdition alcoolisée.
Cet équipage improbable sera rejoint par Torque, énigmatique mécano-cyborg attitré du Dolores, manifestement enfermé dans le vaisseau depuis bien des décennies. Et le tableau prend forme. Une nonne ingénue en mission humanitaire, un cyber-gladiateur alcoolique et un surineur astromécanicien rentrent dans un spatioport, aux prises avec un univers aussi tumultueux qu'un jour de promotion sur le Nutella. Un peu de Mad Max, une once de Star Wars.
Une pincée d'ébriété et beaucoup d'humour. La recette signée Tarquin prend toujours. Au-delà d'un scénario un brin prévisible, on ne peut que saluer le panache d'un récit ciblé de références à la culture populaire et aux classiques du space opéra. Donc des hommages omniprésents se glissent au fil des pages dans presque tous les coins de cases, et l'on se surprend à les énumérer à voix haute comme un forcené.
Je confirme, hein. Pensez-y ici, d'aventure vous le feuilletez en librairie, faites-en un concours avec le libraire. Pour ce qui est du graphisme, les habitudes de Tarquin sont toujours au rendez-vous. Des détails généreusement fouillés et expressifs, une nature luxuriante magnifiée par la colorisation de son épouse.
Petite anecdote éditoriale, un tirage grand format en noir et blanc existe pour les trois tomes parus à ce jour avec un making-of inclus sous la forme d'un carnet de croquis en fin d'album. UCC Dolores donc, un space opéra bien déjanté, signé par le couple Tarquin chez Glénat.
Mais hélas, il est temps pour nous de poursuivre nos odyssées personnelles. Notre tristement longue imperdimenta pandémique étant loin, très loin encore d'être derrière nous. Courage. Voilà les cœurs, amis burgiens, on s'en sortira tôt ou tard, avec panache et dignité. Rappelons-nous que même si la Covid-19 a révolutionné nos vies ici-bas, une révolution sans danse, c'est une révolution inutile. Et quitte à errer dans l'espace, autant le faire en bonne compagnie, avec un mandalorien sur les talons.
Thank you.